Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Mon invité du jour a toujours vécu dans les Vosges. Grand passionné de musique, il exerce tout au long de sa vie des activités qui lui permettent de rester en contact avec sa passion. Professeur de musique et chant, artiste lyrique, chef de chœur, correspondant de l'Écho des Vosges, conteur, compositeur et acteur engagé au sein de plusieurs associations culturelles et musicales. Il est déjà monté sur les planches de l'Opéra du Rhin, a été décoré de la médaille d'or du diocèse de Saint-Dié pour ses qualités d'organiste et a été nommé chevalier de l'Ordre national des arts et des lettres par François Léotard en 1988. Ses écrits reflètent son engagement pour le patrimoine de sa région bien-aimée. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir François-Noël Lavergne pour son ouvrage « Billon, l'ermite du lac » publié chez Nombre 7 éditions. Avec nous également Dominique Breda, organiste, enseignant à l'Université de Lorraine et animateur de l'émission Tempo Classique sur RCN qui passe tous les mardis de 20h à 21h et qui va co-animer cette émission avec moi. Et enfin, John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle « Indispensable ». Bonjour à tous et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors François-Noël, qu'est-ce qui vous a amené à écrire un ouvrage sur Billon l'ermite et pourquoi lui ?
Alors Billon, c'est quelqu'un dont on parle très peu dans l'histoire. Il y a trois lignes seulement. On dit qu'un écuyer de Gérard d'Alsace s'est converti lors de la venue du pape Léon IX
à Toul, oui.
Toul, voilà, c'est ça. Et donc, lorsqu'on a ouvert le cercueil, le corps était intact. Il y a eu de nombreux miracles. Et donc, ce personnage, écuyer, s'est converti. Et il a choisi d'installer sa conversion dans l'endroit le plus affreux, le plus terrible, le plus noir, le plus dangereux, pour que sa conversion soit vraiment efficace. Et ça ne correspond pas du tout au lieu en question, qui est une nature extraordinaire, parce que le lac de Longemer, c'est lorsqu'on est juste devant lui, avec le Honeck dans le fond, eh bien, c'est une cathédrale à ciel ouvert. Alors donc, j'ai voulu rétablir, à la fois pour les Vosges, et puis en même temps, ce personnage-là m'a toujours extraordinairement intéressé. Et il se trouve que la Ligue de l'enseignement, à laquelle j'étais attaché il y a X années maintenant, l'instituteur avait engagé ses élèves à faire des fouilles parce que l'endroit supposé où était la petite selle, comme on disait, de Billon...
Qui est une cabane, en fait, c'est ça ?
Voilà. Mmh. Eh bien, avait été engloutie, il y avait eu un glissement de terrain. Et ils ont retrouvé un squelette qui, maintenant, se trouve dans la petite chapelle au bord du lac. Mais on n'en sait pas plus. Alors... Pour moi qui aime les lieux, alors j'ai organisé, ça remonte maintenant à plus de 50 ans, un concert auquel a participé le trio de Nancy, hein, Pierre Cortési, Dino Tomba, Jacques Mull, des chorales, d'autres musiciens, Quatuor Gabrielli, de trombones, de trompettes, etc., où je racontais de nuit au bord du lac, qui avait été, grâce à la mairie, illuminé. Je racontais, ma foi, j'avais fait un poème. Alors bon, de là, je suis parti sur l'idée de transformer, parce que mon imagination a pas mal... avancer, et j'ai voulu raconter une histoire à partir de ça. Mais je montrais une photo tout à l'heure où il apparaît âgé. Pour moi, il n'était pas âgé du tout.
Oui, il a dû, mourir jeune, oui, c'est ça.
Voilà. Et, ouais. Alors, dès le départ, c'est un poème. Après, c'est devenu une histoire. Et surtout, j'ai imaginé que à la fin, Et elle était là à se dire, c'est pas possible. Ça, c'est la création, c'est quelque chose de merveilleux. Et un jour où il y avait un rayon de soleil un peu particulier au-dessus du lac, vers le Honeck, j'ai imaginé que c'était la trajectoire pour rejoindre le ciel, pour ce bonhomme-là.
D'accord. Voilà. Donc, c'est pas une biographie, c'est une pure, c'est une pure invention.
C'est invention, d'accord, du début jusqu'à la fin.
Mmh. Alors donc, avant de venir Bilon l'ermite, votre héros était Morold, donc un écuyer de Gérard d'Alsace, voilà, duc de Lorraine.
Alors ça, c'est pareil, c'est inventé.
Oui, Gérard d'Alsace, non.
Gérard d'Alsace, non. Non. Et puis, à Gérard May, Gérard d'Alsace avait ce qu'on appelle une mais, M-E-I-X. Et au départ, on parlait du mais de Gérard, c'est-à-dire une sorte de grande... grosse ferme. Mm-hmm. Il venait là à la chasse. C'était un lieu réputé puisque Charlemagne était déjà venu. Il y a un pont Charlemagne.
Oui.
Et donc, il venait à Gérard May. Et au départ, Gérard May, M-E-X,
oui,
le May de Gérard. Ensuite, Gérard May et accent aigu. Ça, mm-hmm, c'était pour les paysans de l'époque. Et après, comme il y avait Longemer, le lac long, Retournemer, le lac où on retourne, les gens ont pris l'habitude de dire Gérard Mer.
Mm-hmm.
D'ailleurs, dès que quelqu'un vient de l'extérieur, on le reconnaît tout de suite, parce que Gérard Mer, le lac de Gérard. Voilà l'histoire.
Mm. Alors, durant une grande partie de votre récit, Morold, qui a ressenti l'appel de Dieu, s'interroge sur ce qu'il doit faire, car il n'a ni l'envie ni le courage de renoncer au plaisir de la vie. Alors, on doit vraiment faire un choix. Et tout d'abord, pour nos auditeurs, qu'est-ce que l'appel de Dieu, d'après vous?
Là, je ne sais pas exactement si c'est l'appel de Dieu. Je pense que c'est quelqu'un qui a réfléchi à sa vie, au sens qu'il faut donner à la vie, et... sa réflexion l'a conduit dans toutes ses activités à se poser des questions.
Mm-hmm.
À partir de là, il sentait bien qu'il y avait quelque chose en lui qui n'était pas complet. Il fallait fouiller et à partir de là, aller beaucoup plus loin. Alors c'est pour ça que sa conversion un peu... dans le livre, elle est lente.
Mmh.
Il se pose beaucoup de questions, mais il fréquente aussi, en particulier, je le rattache à un vieux moine.
Mmh.
Bon, ça m'a été un petit peu soufflé parce que je fréquente beaucoup des moines, ou les religieuses,
mmh,
pour les problèmes de respiration, les problèmes de voix. Et donc, en fréquentant tous ces moines, en étudiant aussi leur conversion, ce qui est toujours un peu curieux, parce qu'il y a un moine auquel je peux faire référence, moi j'appelais toujours D'Artagnan, parce qu'il avait une moustache en pointe, Andreas, il s'appelait. C'était un Allemand. Et un jour, je représentais le père d'un moine africain. Le père étant décédé, il m'avait demandé de remplacer son père pour son ordination. Et donc, on a mangé tous ensemble, avec la fête, avec tous les Africains, avec les danses, avec les musiques. Et j'avais mon neveu, qui n'est pas spécialement pratiquant, même de loin, et qui m'avait dit « Est-ce que je peux venir avec vous ?» Et donc, il était en face de ce moine, puis il lui dit « Mais comment ça s'est passé pour vous ?» Alors, c'était un moine allemand, Andreas, et donc, on pose la question « Comment ça s'est passé ?» Il dit « J'étais une fois à Rome. » Alors, il était sculpteur d'origine, et c'était un peintre aussi. Et donc, Il a raconté qu'il s'était trouvé, et protestant, il s'était trouvé face à un tableau, des sculptures, au Vatican, Dieu sait s'il y en a, et tout à coup, il s'est trouvé projeté contre le mur, et il a entendu une voix, « Je suis celui que tu cherches. » Et voilà comment lui place sa conversion.
D'accord.
Alors, au travers de choses comme ça, je me suis dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on pourrait fouiller ? Puisque lui, il s'est converti, Morold, dans mon livre,
oui,
parce qu'il a vu les miracles. Ben, il fallait utiliser ça.
D'accord.
Puis on a toujours besoin de se convertir, moi le premier. Déjà, ne serait-ce que parce que je suis très bavard.
Mais alors, Bilon, ça vient d'où ? Parce qu'on le trouve...
Ah ben, Bilon, c'est le nom.
Oui, c'est son nom, mais je veux dire, ça fait référence à rien du tout. Il n'y a, pas d'occurrence, hein, j'ai
non,
regardé.
Il y a trois lignes.
Oui, c'est ça, c'est
dans
tout.
Dans l'histoire.
Mm-hmm.
Voilà, donc... mais c'est resté Bilon.
Oui, oui,
bien sûr. Et puis on parle, sur les lieux, on dit la butte Bilon.
D'accord. Alors, peut-on parler de Bilon comme d'un anti-héros à l'aune du 21e siècle ? Et quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
Ben, je crois qu'il a les faiblesses de tous les gens qui vivent avec des idées, avec un idéal. Là, en l'occurrence, d'être l'écuyer de Gérard d'Alsace.
Oui, avec les avantages qui vont avec.
Bien sûr.
Mmh.
Enfin, quels sont les avantages ? Je ne sais pas trop, parce qu'on n'en parle pas.
Non.
On ne sait rien.
Non, mais dans votre ouvrage, il avait quand même une vie plutôt...
Bien,
ah,
oui.
Confortable.
Et il était confident.
Oui.
Je laisse entendre qu'ils avaient été plus ou moins élevés ensemble.
Mmh.
Donc, il faisait la somme de ceux qui lui semblaient justes. Je pense que c'était... quelqu'un d'honnête qui réfléchissait et qui, finalement, malgré tous les avantages qu'il pouvait avoir, n'était pas pleinement satisfait. Comme n'importe quel être humain, surtout à notre époque,
mm-hmm.
peut ne pas être satisfait de sa vie.
Mm-hmm.
On a toujours envie d'autre chose. Et je pense que... au travers en particulier de ce moine qu'il fréquentait, il était appelé à voir les choses autrement, à expliciter certaines choses qu'il sentait en lui.
Mm-hmm.
Enfin, des choses que moi aussi, un petit peu, je sens.
Mm-hmm. Mais en même temps, une fois qu'il se convertit, en fait, qu'il devient ermite, sa vie n'est quand même pas facile du tout. Ah. On est au XIIe siècle, hein, c'est ça ? À peu près, oui,
non, 1052.
Hein. Ah, 1052, d'accord, 11e siècle.
Oui, oui. Mmh. Alors, c'est pour ça, il faut vraiment imaginer.
Ben
d'ailleurs,
oui.
Je n'ai pas voulu vraiment prendre toute sa vie. C'est plutôt des moments de sa vie. Des moments d'hiver, des moments d'été, des moments de printemps. Je voulais resituer cela en fonction... de ses réactions aussi par rapport à la nature.
Oui.
Je voulais ramener ça quand même. Je parle des jonquilles, par exemple.
Ah, bien sûr, oui.
Bon, j'imagine les champs de jonquilles à cette époque-là, où l'homme n'avait pas beaucoup d'occasions de venir salir la nature. Ben, ça devait être encore plus merveilleux.
Alors, l'atmosphère de votre roman ressemble à la fois paisible et empreinte de mystère. Alors, comment avez-vous travaillé l'ambiance pour créer cet effet ?
Bah, j'utilisais des moments aussi que j'avais vécu.
D'accord.
Parce que je fréquente beaucoup la nature.
Oui.
Il y a la nature. Quand j'étais plus jeune, il y avait un coin sur la montagne que j'aimais beaucoup, qui domine tout Gérardmer, le lac. Alors que ce soit le matin, que ce soit midi, que ce soit le soir, tout est nouveau.
Mmh.
Il y a, au bout du lac, il y a aussi une sorte de... bon, je dirais de tour, qu'on appelle la tour Merelle. Alors, c'est autre chose, parce que là, il faut y aller plutôt le soir, parce qu'on a le soleil qui arrive de l'autre côté. Mais le matin, par contre, il y a la roche des Bruyères. Alors c'est pareil, on domine aussi Gérardmer. Et puis c'est un endroit où il a pu aller.
Mmh. Alors on sent bien dans votre récit votre passion pour les Vosges, cette terre d'exception d'après vous, hein, c'est ce que vous écrivez. Alors qu'est-ce qui vous fascine dans ce territoire ?
Je pense que c'est encore la nature à l'état pur, avec
elle,
tout ce qu'il y a.
Elle l'est encore maintenant ?
Ben,
il y a de moins en moins.
Il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui sont en action contre tout ce qui est chalet, etc. Parce qu'on a une population qui est moins importante, mais au contraire, le bâti, alors là, a explosé.
Mm-hmm.
Et donc, mais la nature reste quand même vraiment nature.
Mm-hmm. Alors, vous avez des descriptions merveilleuses, ça donne envie. Alors, avec plein de couleurs, somptueuses d'ailleurs. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi vous avez fait le choix de mettre des photos en noir et blanc dans votre ouvrage. Et
alors, la première édition est avec des photos couleurs.
Ah, d'accord.
Et j'aurais préféré d'ailleurs qu'il y en ait plus.
Mmh.
Parce que... Attendez que je retrouve...
Oui, mais enfin, nos auditeurs ne verront pas. Hein.
Voilà. Non, mais je vous montre, par exemple, oui. Le vitrail de Saint-Gérard, c'est en couleur.
Oui, oui. D'accord.
Et la réédition... c'est fait
de la maison d'édition.
C'est dommage.
Oui, parce que c'est dommage. C'est vrai que ça fait un contraste quand même un peu.
Et au départ, je voulais mettre sur la page de garde.
Oui.
Non pas le lac, mais la chapelle Saint-Gérard. C'est un ami peintre qui avait fait ce tableau. Mais bon, au moment où il aurait fallu que je lui demande, il est décédé. Donc, c'était plus difficile de trouver les ayants droit pour. Utiliser cette photo-là.
Oui, oui, d'accord. Alors, vous faites partie d'associations qui œuvrent pour protéger le patrimoine des Vosges ?
Non.
Non ?
Non.
Mais il y en a quand même plusieurs.
Non, parce que j'ai plutôt tendance, des fois, à rouspéter, comme on dit, parce que je trouve que les sites devraient beaucoup plus être mis en valeur, la nature elle-même, mais je trouve que... Je dois le dire, je trouve qu'à Gérardmer, tout est petit.
Ah bon ?
On a du mal de sortir, de voir les choses en grand. Bon, peut-être un peu mégalomane. J'aime bien ce qui est grand, ce qui est beau. Voilà.
Qui en jette ?
Ben oui.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'il y a une profusion dans mes descriptions de... Je dois dire que je suis assez fanatique de Peggy. J'avais écrit des poèmes un petit peu dans
Charles
son
Peggy.
Style. Oui. Un mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Où il dit, elle suivait comme une pleureuse, elle suivait comme une... etc. Je répète. Et je pense que je ne vais pas me situer comme Peggy. Hein.
Alors, j'ai vu dans votre biographie que vous étiez conteur. Alors, vous écrivez vous-même vos contes ou bien vous puisez dans le folklore local ?
Non, le folklore local, il y avait Jean Grossier qui faisait ça très bien. Il y a Claude Vanoni qui le fait dans un autre style.
Mm-hmm.
Non, il ne faut pas marcher sur les plates-bandes. C'est dans des cas bien précis.
Oui.
Et souvent, dans les concerts que je présentais, ben j'en profitais. Et certains disaient que quelquefois, le commentaire était plus long que la pièce. Je vois que Dominique rit.
Et vous vous produisez encore en tant que conteur ?
Non.
Non, plus du tout.
Non, il faudrait qu'il y ait vraiment une occasion spéciale.
Oui. Et est-ce que Bilon parle encore à certains Vosgiens ? C'est resté dans la mémoire ?
Ah oui, 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 oui. Parce que la chapelle en question, tous les étés, il y a des sœurs de Porcieux.
Oui, parce qu'elle est située où
elle, au bord du lac de Longchemin.
Au parc du Longchemin.
Et donc, les sœurs viennent animer, la chapelle est ouverte, et tout le monde peut voir le squelette de Bilon, apparemment.
Hein. D'accord, oui.
Il n'y a aucune garantie, loin de là. Dans un cercueil de verre.
Ah oui, d'accord.
Enfin. Alors donc, il y a quand même beaucoup de gens qui vont... Puis la butte Bilon, c'est quelque chose, c'est un lieu exceptionnel.
D'accord, je ne connaissais pas.
Ah, il faudrait venir.
Oui, bien sûr, pas de problème. Donc, je ne savais pas qu'effectivement, Bilon était resté dans les mémoires vosgiennes.
Ah, si, si.
Oui. Mais que dans les mémoires vosgiennes, parce que comme on ne trouve rien sur, sur le net, c'est vrai
je ne sais pas, il faudrait quand même chercher peut-être que les évêchés de Nancy-Toul ont peut-être... Enfin, apparemment, on n'a rien sur vraiment la conversion. Mais on sait qu'il y a eu Saint-Gérard.
Ben oui, bien sûr.
Saint-Gérard, c'était quand même quelqu'un de...
De très connu à Toul, oui.
Et j'ai assisté en 52, j'étais jeune à l'époque, à la translation d'une rotule de Saint-Gérard à Gérardmer, qui se trouve dans une chapelle située à gauche quand on entre dans l'église de Gérardmer. Mmh. Et il y a la rotule qui est scellée dans un... Comment dirais-je, en verre aussi.
Un reliquaire en verre.
C'est Monseigneur Lallier, qui était à l'époque évêque de Nancy-Toul, qui avait fait ce transfert en octobre 52. Le 6 juillet, pardon. 6 juillet 52. Mm-hmm. Gérard Méric, Monseigneur Braul, évêque de Saint-Dié.
Oui. Bon, on dit que la France est déchristianisée. Est-ce que ça attire encore du monde, ces reliques?
Je ne sais pas, les gens regardent. Hein,
regardent, oui, c'est de la curiosité,
l'église.
Oui, c'est ça.
Voilà, il y a de la curiosité. Maintenant, je ne sais pas si... les gens de Xonrue, Longemer, sont très attachés, par contre. Hein. Et le curé était l'ancien curé de Xonrue, qui est décédé depuis des lustres aussi, Edmond Viard, avait fait beaucoup. Il a créé sa paroisse, après la guerre de Xonrue, il y a quand même un attachement. Bon, est-ce que ça va loin? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, ça m'avait toujours interpellé. Parce que je trouvais que ce bidon, eh ben, il avait eu du courage de venir là. Du courage, mais en même temps, j'ai toujours pensé que finalement, au départ, il avait choisi le lieu le plus affreux, comme il a dit, le plus noir, le plus terrible, le plus dangereux, mais que son problème, au départ, c'est qu'il s'était attaché à cette nature-là. Et sur la fin du livre, je dis qu'il est entré dans l'eau, et qu'il est dans l'eau du lac, et qu'auparavant, il était passé dans les arbres, il ne tenait plus compte des arbres, il ne les regardait plus, parce que finalement, ce n'était pas ça l'important, et il ne voulait surtout pas... il s'émerveillait de la beauté des lieux parce que c'était la création de Dieu, mais il ne voulait pas s'attacher à cette beauté-là parce que ça le détournait
de sa foi,
de Dieu et de sa foi.
D'accord.
Il avait peur d'y trouver du plaisir.
Alors, nous allons faire une pause musicale et nous revenons après Kids United qui vont nous interpréter On écrit sur les murs.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
D'où nous l'ont écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi.
Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages,
métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs la force de nos rêves. Nos espoirs.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec François-Noël Lavergne, venu nous présenter son ouvrage « Bilon l'ermite du lac », publié chez Nombre 7 éditions. Alors avant d'aborder pour plus particulièrement la carrière musicale de François-Noël, John Bulit va nous faire la lecture de sa nouvelle « Indispensable ».
Ce jour-là, avec Clara, nous étions partis tous deux à l'Intermarché de Champignol. J'avais envie de manger du risotto aux champignons et chez nous, une question réserve de nourriture, c'était le désert total dans les placards.
Écoute, Michael, faut quand même remplir le frigo de temps en temps, tu sais, mon chéri, m'a-t-elle susurré à l'oreille. Et après, promis, on restera toute la soirée à se faire des câlins. Et qu'en penses-tu?
Ah, tu parles si j'étais pour. Nous étions en approche du grand supermarché, mais quand on est sorti de la Nationale 57, un petit avion est passé juste au-dessus de notre voiture. Il volait extrêmement bas, essayait de virer, de reprendre de l'altitude. Il va se planter, j'ai dit. Au-dessus du bois, il a disparu, et à la cime des arbres, j'ai vu des petites feuilles voler dans tous les sens. Pas de bruit, pas de fumée, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. « Appelle les pompiers !» j'ai crié tout excité à Clara. Ceux-ci nous ont demandé si on pouvait aller voir. Alors Clara m'a déposé au plus près du bois sur la route de l'homme mort, près des anciennes fortifications de 14-18 de Frouard. Au téléphone, les pompiers m'ont dit qu'ils avaient la confirmation qu'un avion avait bien disparu des écrans de la tour de contrôle. J'ai raccroché et j'ai couru à travers les ronces, mon souffle court, le téléphone encore serré contre mon oreille. Clara, quant à elle, était repartie en direction d'un petit chemin carrossable qui lui permettrait sûrement de s'avancer au plus près de la zone avec la voiture. Alors que je m'enfonçais dans la forêt, les branches griffant mes bras, j'aperçus enfin la carcasse de l'avion. Suspendu entre les arbres, son nez planté dans la terre, il semblait figé dans une posture irréelle, comme si la nature elle-même hésitait à absorber cet intrus métallique. J'ai rappelé les pompiers et grâce à mon téléphone, ils ont tout de suite localisé le lieu de l'accident. « On arrive !» m'ont-ils dit. Pendant 2 ans et demi, j'avais été pompier volontaire du temps de ma jeunesse lointaine et là, je me suis dit tout de suite qu'après un tel choc, ça allait pas être terrible. M'approchant prudemment, j'ai avisé du bas la petite fenêtre du cockpit entrouverte. Mon regard croisa alors l'espace d'un instant, la tête ensanglantée, les yeux pleins de douleur du pilote. « Vous êtes vivant ?» j'ai demandé. « Oui, oui, oui. Et vous êtes combien là-dedans »« 4, dont 2 enfants. S'il vous plaît, retirez les affaires, on est écrasé, on étouffe. Faites vite !» Poussé par l'adrénaline, j'ai escaladé alors les armes, me suis hissé jusqu'à un rebord en métal du cockpit et, en équilibre, j'ai tenté d'ouvrir la porte de l'avion. Mais sans succès. Ah, sapristoche, avec 4 personnes à l'intérieur, dont 2 enfants, un avion menaçant de s'effondrer à tout instant, la partie n'était pas gagnée. Sans réfléchir, je me suis hissé un peu plus sur le rebord métallique. J'ai tiré de toutes mes forces sur la porte de l'appareil, mais rien à faire. Celle-ci ne s'ouvrait qu'à peine. Les sanglots des enfants me parvenaient, étouffés par la carcasse de l'appareil, et je savais qu'il n'y avait pas une seconde à perdre.
Juste à ce moment, en bas des arbres, j'ai vu surgir la silhouette fluette de Clara qui m'appelait à travers le feuillage touffu et qui scrutait les environs à la recherche d'une aide éventuelle. « Je suis là, je suis dans les arbres avec eux, je vais les sortir, Clara !» Je distinguais à peine les visages derrière la vitre embuée du cockpit. À l'intérieur, les gémissements devenaient plus faibles. Le pilote, toujours conscient, tendit une main vers moi, m'implorant silencieusement. Ah, ils étaient coincés, enchevêtrés dans les débris, serrés les uns contre les autres. L'avion, suspendu entre les arbres, menaçait de basculer à tout instant. Chaque bruit de métal, chaque craquement de bois amplifiait mon angoisse. « Tenez bon ! Tenez bon !» criai-je aux survivants. Je pris alors une grande inspiration et frappai violemment contre la porte pour la défoncer. Une fois, deux fois, la scie résonna sans céder. Je sentis mes muscles brûler sous l'effort. À bout de solution, j'attrapai une branche épaisse brisée par le choc dans les arbres et l'utilisai alors comme levier. Un grincement sourd retentit et peu à peu, la porte du cockpit s'ouvrit dans un dernier couinement de tôle. « Je vais vous sortir de là !» Je m'engouffrai dans l'ouverture, le corps tendu, contorsionné dans l'espace exigu. Le pilote était effectivement blessé, mais toujours lucide. À ses côtés, une femme tenait fermement la main d'un enfant. Au nom d'un chien. C'était ma voisine de palier, avec ses enfants. Leurs visages couverts de poussière, leurs yeux grands ouverts, emplis d'effroi. Je m'étais embrouillé avec la maman la semaine dernière pour une histoire de musique trop forte et... « On va tous vous sortir. Passez-moi les enfants d'abord, fis-je, oubliant mon malaise. » Clara, juchée sur une branche un peu plus bas, tendit les bras pour réceptionner le premier. Un garçon d'à peine 5 ans que je connaissais, enfin que je connaissais vaguement sous le prénom de Marc. Il était silencieux, trop calme à mon goût, probablement choqué. J'attrapai la deuxième, une petite fillette blottie contre sa mère. Leurs respirations haletantes me serrèrent le cœur. À l'extérieur, les sirènes des pompiers commencèrent à retentir au loin. « On va tous sortir !» répétais-je comme un mantra. Mais au moment où j'allais aider la femme et le pilote, un sinistre craquement déchira le silence. L'avion bougea, oscilla. Les arbres qui le retenaient faiblissaient. Clara et moi, nous échangeâmes un regard. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Je sentis encore l'avion osciller sous mes pieds. L'équilibre fragile entre les arbres se rompait lentement. Chaque grincement du métal semblait annoncer l'inévitable. Clara, plus bas, à l'extérieur, serrait les enfants contre elle, les yeux rivés sur la scène. Ah, il devait faire vite. « Il faut sortir tout de suite !» cria-t-elle d'en bas. Le pilote, toujours coincé dans le cockpit, tentait de bouger malgré sa douleur. Et à ses côtés, la femme tremblait, luttant contre la panique qui menaçait de la submerger. « Monsieur, aidez-moi » supplia-t-elle. Sans hésiter, je me glissais alors davantage à l'intérieur, mon cœur battant à toute vitesse. Repérant une ceinture de sécurité déchirée, je m'en servis comme appui et tendis la main vers le pilote. « Allez, accrochez-vous à moi !» L'homme, le visage couvert de sang, s'efforça de se hisser seul, au dehors. Mais mes forces diminuaient, je ne pouvais l'abandonner. Dans un dernier effort, je tirai de toutes mes forces et réussis enfin à le dégager totalement de son siège. Clara se précipita aussitôt pour le réceptionner. Restait encore la femme, mon aimable voisine. Mais alors qu'elle essayait de bouger, un bruit terrible résonna et l'arbre céda sous le poids de l'épave. L'avion bascula violemment sur le côté, m'entraînant avec lui. Clara hurla mon nom et le monde bascula. Un choc brutal, une douleur fulgurante, l'air me manquait. Puis un silence absolu et un vertige me prit. J'esquissai un geste, mais mon corps refusa d'obéir. Une douleur sourde avait envahi mes membres et autour de moi, le monde était chaos de feuilles, de branches brisées, de métal tordu. Puis, une petite voix. « Michael, où es-tu ?»« Clara. » Avec difficulté, J'ouvris les yeux et vis sa silhouette se dessiner parmi les ombres. Elle avait couru, se tenait à mes côtés à présent, le visage marqué par l'inquiétude. « Je vais bien, murmurai-je, bien que j'en doutais. » Mes dents à me redresser, celle-ci posa sur mon épaule ses deux mains tremblantes et je sentis alors une chaleur réconfortante dans ce contact. Tout près derrière nous, les sirènes des secours résonnaient sur le lieu de l'accident. « Et la femme ?» soufflai-je d'une voix rauque. Clara baissa les yeux avant de sourire légèrement. « Les pompiers l'ont dégagée. Ils l'ont dégagée juste à temps pour que tu te réveilles. Du choc pris par cette grosse branche morte sur ta tête. Tout le monde est en vie. » Un soulagement intense m'envahit. J'inspirais profondément, laissant l'air frais de la forêt remplir mes poumons. On l'avait fait. Contre toute attente, on avait sauvé ces quatre vies. Aussi, quand les secouristes, après avoir mis les quatre survivants à l'abri, dégagèrent la carcasse de l'avion, nous nous éloignèrent lentement, épuisés, mais le cœur rempli de quelque chose de puissant. Une certitude. Ah, nous n'étions pas des héros, mais ce jour-là, nous avions été indispensables. Et peu importe qui était dans cet avion, la voisine et nos embrouilles insignifiantes, ou le président de la République, nous étions frères, frères humains.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors François Noël, étant donné que la musique est le domaine de Dominique plus particulièrement, je lui laisse la parole pour parler de votre carrière musicale.
Merci Mona. Eh bien François, on écoutait tout à l'heure les Kids United, mais c'est pas avec les Kids United que vous avez enregistré, mais avec l'ensemble vocal du lycée de Gérardmer quand vous y étiez enseignant. Vous vous souvenez de cette période?
Ça remonte loin.
Ben oui, je sais.
Et puis il y a eu bien d'autres choses. Avant et après.
Et après, oui, j'imagine
c'est vrai,
bien.
Il y a eu beaucoup de disques. Oui.
Et quand vous croisez vos anciens élèves qui ont participé à ce projet-là, ils vous en reparlent ?
Oui. Une petite anecdote. Le plus... un des anciens vient de fêter ses 80 ans. Ça me rajeunit.
On est face à un centenaire.
Alors déjà, à cette époque-là, vous aviez fait un disque un peu original, puisqu'il n'y avait pas que du chant. Il y avait aussi le trio récital dont on parlait tout à l'heure, qui était intervenu et qui avait enregistré des pièces clavecin, flûte, et puis trompette et flûte. Trompette et clavecin aussi.
Flûte, oui, il y avait Jacques Mulle, ouais. Dino Toba.
Ouais.
Dino Toba.
Jérômois.
Peu de différence, puisque lui est du mois de mars et moi du mois de mai. Hein.
D'accord.
Et donc, Pierre Cortelesi.
Donc, pour info, je suis allé regarder sur Internet ce vinyle. Il est à 50 euros. Hein. Donc, comme quoi, hein, la qualité n'a pas beaucoup de prix. Hein.
Ouais, oui.
Eh oui. Alors, votre nom à Gérardmer est associé aussi, on le disait tout à l'heure, à la musique liturgique, à l'activité en paroisse. Qu'est-ce que ça vous procure, cette activité paroissiale tous azimuts, en fait, puisque vous êtes organiste liturgique, animateur, compositeur de psaumes, de chants liturgiques, voilà. Formateur vocal.
Beaucoup, de choses.
Pour un seul homme, oui, oui.
Ah, oui. J'aurai beaucoup à répondre quand j'arriverai près de Saint-Pierre.
Mais répondez à moi, déjà.
Eh bien, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Déjà, la composition des psaumes pour le dimanche, mais que je donne aussi à quelques couvents qui me les ont demandés.
Et vous les mettez en résonance avec votre foi ?
Ah, bah, bien sûr. Mmh. Parce que j'ai toujours dit, Dieu m'a donné une voix et la foi.
Oui.
Et l'une au service de l'autre. Alors donc, ça me motive... Et si aujourd'hui je suis encore dans la place, c'est parce que j'ai balayé tout ce qui va te plaire. Parce que la musique est dans l'église, c'est pas toujours simple.
Ah, c'est sûr, oui.
Ah, c'est pas à toi que je vais apprendre les choses. Et donc, bien, j'éprouve à la fois du plaisir, mais surtout, c'est répondre à une vocation. Depuis tout jeune, parce que J'ai commencé de chanter, j'avais 5-6 ans. C'est un prêtre qui avait remarqué ma voix. Et d'ailleurs, j'ai eu des difficultés à cause de ça, parce qu'on me demandait toujours de chanter, on me mettait sur la table, et ça m'exaspérait. Et puis, ma mère n'était pas la dernière à dire « Allez, chante quelque chose !» Et ça m'agaçait au plus haut point. Ce qui fait que j'ai toujours refusé d'apprendre par cœur les choses. J'ai toujours une partition dans la main parce que vraiment, pour moi, c'était devenu exaspérant. Mais bon, après, j'ai chanté. On a vu les petits chanteurs à la Croix-de-Bois qui sont venus à Gérardmer. Alors, Monseigneur Maillet voulait absolument que je reparte avec. Ma mère n'a pas voulu me laisser partir. Parce qu'à l'époque, partir à Paris...
Dans une chorale.
Oui. Voilà. Alors bon, ben, j'ai fait mon chemin en chantant et en animant. Après, le chant a été quelque chose d'important pour moi.
Et à côté du chant, vous avez appris l'orgue comment ?
Oh, avec l'abbé Beau.
Ah, alors parlez-nous quand même un petit peu de l'abbé
Beau. Je commence à parler de l'abbé Beau, il y a tellement de choses à dire. Et puis, ça ne sera pas toujours la finesse. Hein.
Prenons le plus fin,
alors.
Il faut
dire que c'était un personnage extraordinaire, outrecuidant, et qui, pour ses confrères, n'était pas toujours aussi facile à vivre.
C'était le curé de Gérardmer ?
Il n'était pas curé. C'était un... Il avait été vicaire et il était connu pour ses fredaines. Si j'en raconte une seule,
oui.
À l'époque, Monseigneur Marmottin, l'évêque de Saint-Dié, n'était pas dans les meilleurs termes avec le curé de Gérardmer, qui était un monseigneur, Monseigneur Gilbert. Et Monseigneur Gilbert dit à son jeune vicaire, l'abbé Beau, Monsieur Beau, puisque c'était comme ça qu'on disait à l'époque, vous allez descendre à la cave et vous allez prendre une bouteille que vous allez trouver, etc. L'abbé Beau remonte avec sa bouteille et il commence, l'ouvre, il la donne à Monseigneur Gilbert, qui dit, Monseigneur Marmottin, vous allez voir, c'est un fin nectar. Et il penche la bouteille, rien ne coule. Il repenche un peu plus la bouteille et finalement une espèce de liquide un peu jaune commence à sortir et puis un haricot. Parce que l'abbé Beau s'était trompé, avait pris la réserve qui datait de la guerre de haricots. Et donc Monseigneur Gilbert qui voulait se faire pardonner, parce qu'il faut dire que comme ils ne s'entendaient pas, ils avaient mis au-dessus de l'entrée du presbytère de Gérardmer, il y avait une très grande glycine, et au-dessus, il avait mis une affiche, « Le voici l'agneau si doux ». Parce qu'on savait que Monseigneur Marmottin n'est pas toujours... Voilà, une des phrases que de l'abbé Beau, je pourrais en raconter des milliers, mais Claude Vanoni s'est souvent inspiré de ces histoires-là. Alors, l'abbé Beau... avait été, quand il était au séminaire à Saint-Dié, était souvent à l'orgue. C'était un improvisateur né, mais c'était un fantaisiste. Et donc, à l'époque de la guerre, il faisait jouer Faust, et les Allemands qui occupaient, parce que Hitler était venu à Gérardmer, les Allemands disaient, mais monsieur, vous pourriez faire jouer autre chose que Faust. Nous avons la Valkyrie, nous avons du Wagner. Et je lui disais, mais arrêtez avec vos histoires. C'est Faust qu'il faut jouer. Donc, il avait donné plusieurs fois Faust. Ensuite, eh bien, il est parti en Afrique, à Tanger, où là, pour ne pas avoir... il se faisait passer pour un évêque qui était en déplacement, et ce qui lui permettait. Alors, toute sa vie, c'était ça, la musique. Et je me souviens que Il aimait bien au presbytère de Gérardmer, où il avait un piano, jouer froufrou, toutes fenêtres ouvertes. Et aussi, quand je l'accompagnais à l'église, eh bien, je me souviens, la communion, il envoyait des dragées sur les chapeaux, parce qu'à l'époque, les femmes mettaient des chapeaux. Il envoyait des dragées sur les chapeaux, où il jouait froufrou, ou plaisir d'amour.
Ben, il faudra faire la vie de l'abbé Beau maintenant, après Milon. Hein,
la vie scandaleuse.
Scandaleuse. Bon, on peut dire deux mots du festival de Saint-Barthélemy, dont vous vous êtes occupé quand même infatigablement pendant de nombreuses
années,
et notamment avec votre épouse Christiane, que l'on salue pour l'occasion.
Voilà, c'est gentil, parce que c'est elle qui assurait déjà la restauration. Je me souviens d'un certain organiste avec... d'autres trompettistes et qui disaient avant vers 7 heures avant le concert alors elle demandait qu'est-ce que vous voulez manger. Bon, on ne mange pas avant, mais les trois accompagnatrices de ces musiciens, mais nous on a faim et on mangera bien, hein. Et donc mais ça se passait toujours comme ça, parce que je me souviens d'un certain Gaston Litaiz, qui était aussi à la maison, et avec toi, Dominique, il était déjà 2h du matin, et on en était à l'apéritif.
Ah bah oui, ah bon, on ne plaisante pas entre organistes.
Oui. Finalement, il a dit, mais moi j'ai faim aussi, je vais rester. Et il est resté. Et c'était jusqu'à 5h, 6h du matin.
Oui, c'était...
Et je partais reconduire en voiture. Heureusement qu'il n'y avait pas à l'époque trop de routiers. À 5h du matin, à Faïs, où il avait sa maison.
Dans les Vosges, donc.
Dans les Vosges, toujours. Alors, une dernière question pour conclure. vous avez cheminé toute votre vie avec la musique. Comment en parleriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui de la musique ?
Eh bien, moi, ce qui me semble, je vois au travers de ma fille et de mon gendre qui sont profs de musique, ils ont beaucoup d'activités, ils participent à beaucoup de choses, mais je trouve que ils sont un peu enfermés dans une volonté de voir les courants modernes. Alors que moi, j'avais toujours l'ambition d'aller vers des choses souvent très sévères pour eux. Je me souviens de Lo Jesu Christe de Van Berchem. Mmh. Eh bien, j'ai réussi à le faire chanter par les élèves. Et certains que je revois, des anciens, me disent encore... Et quand on regarde sur Google, il y a même une réflexion d'un élève qui parle justement de cet O Jesu Christe de Van Berchem. Et on avait participé, c'était l'époque qui a suivi M. Stolz à Nancy, le nom va m'échapper, et on avait participé aux saisons de Haydn.
Daniel Colomba, peut-être.
Et on avait fait des répétitions à Gérardmer, parce qu'à l'époque, j'avais quand même 150... membre de la chorale. Tout le monde chantait, mais on abordait des choses comme la Misa Criolla de Ramirez. Donc, que j'avais un petit peu revu et corrigé quand même.
Donc l'idée, c'est de les porter vers le haut, par la musique.
Avec des choses, parce que je trouve que maintenant, on va un petit peu vers la facilité, vers le moderne, mais je pense que quand on offre aux jeunes le contact avec les monuments, eh bien, ça marche. Parce qu'il ne faut pas non plus se moquer d'eux. Ils ont bien conscience. Hein. Si on leur propose quelque chose de fade, ils savent bien reconnaître la fadeur. Alors, c'est un peu le reproche que je ferais à notre époque. Alors qu'il y a autant de dévouement, hein, ça n'a rien à voir, autant de volonté de transmettre. Mais je pense aussi au niveau de même des cours. On a trop tendance, à mon avis, à leur faire disséquer les choses, alors que si on prend dans le brut, c'est eux qui arriveront à tailler des statues.
D'accord. Merci François.
Merci beaucoup. Alors merci à François-Noël Lavergne d'être venu nous parler de son ouvrage « Bilon, l'ermite du lac » publié chez Nombre 7 éditions. Merci à John Bulit pour la lecture de sa nouvelle « Indispensable ». Merci à Dominique Breda d'être venu m'épauler pour cette émission. Merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Nous nous quittons avec le son du silence de Simon and Garfunkel. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle émission des Plumes.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls.